Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
C'est très sain pour un écrivain de ne pas être dans sa langue maternelle. Et nous sommes très nombreux maintenant à avoir fait cette expérience d'écrire dans une langue qui n'a pas été la langue de l'enfance.
Nancy Huston.
Pourquoi c'est sain ? Parce que rien ne va de soi. Et y compris la langue maternelle ne va plus de soi.
Ça peut pas faire de mal.
Une fois qu'on a appris une autre langue et qu'on voit qu'il y a d'autres manières de dire la même chose ou presque. Donc toutes les tournures, toutes les façons de parler, les petits proverbes, les petites habitudes de la parole deviennent audibles. C'est Beckett qui a le plus exploité cet aspect de la langue étrangère.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Si l'on me demandait aujourd'hui en quoi le théâtre est irremplaçable, je dirais qu'il est le plus court chemin de l'esthétique à l'éthique. Pour faire acte de conscience politique, le théâtre n'a qu'à ouvrir ses portes. Même le plus apolitique des théâtres reste encore plus politique que la plupart des déclarations du monde consumériste. Car quelle aventure humaine dans ce grand supermarché technologique nous apprend encore la joie d'être ensemble ? Être ensemble, ce n'est pas faire foule ou vibrer d'affects refoulés. C'est accepter une inquiétude commune et espérer le retour de mythes fondateurs. L'esthétique et l'éthique sont si proches lors d'une représentation de théâtre qu'on peine parfois à les distinguer. Notre émerveillement croise notre soif de société meilleure. Notre conscience collective est renforcée par la célébration de la scène. Le consommateur consomme seul et se console lui-même dans une luxuriante misère. Il achète du bruit pour s'éloigner un peu plus de ce qui pourrait le sauver. Car ce qui nous sauve, c'est d'appartenir à l'histoire. C'est la sensation d'avoir participé à l'histoire. Même la plus humble réunion d'espérance peut suffire à faire naître ce sentiment. Au théâtre, le spectateur vient pour faire silence. Cela ne veut pas dire se taire. Le théâtre ne se contente pas d'ouvrir des possibles, il est action. Pour nous aider à traverser la sévérité du temps, il propose tout simplement de nous réunir devant la représentation éternelle de l'humanité aux prises avec cette impuissance. L'ambition immense du Festival d'Avignon n'est pas moins que cela. Notre impatience d'une société plus juste, d'un rapport au monde plus sain, d'une parole mieux partagée est le plus haut désir politique. Et pour cela, il faut désarmer les solitudes. Il n'y a dans cette aventure aucune hiérarchie. Chacun y est absolument responsable de lui-même et de sa part de conscience. Merci à chacun et à tous de faire du théâtre un art de l'avenir.
C'est par ces mots, toujours portés par la même ferveur et le même engagement, qu'Olivier Py ouvrira la prochaine édition du Festival d'Avignon qui se déroulera du 4 au 23 juillet. Fidèle à son action sur le territoire, Olivier Py signera un Macbeth philosophe, d'après Shakespeare, monté avec les détenus du centre pénitentiaire d'Avignon. Des guerres antiques avec Homère, Échille, Virgile, jusqu'aux conflits qui frappèrent la Chine, l'Irak ou l'Algérie, cette nouvelle programmation met en lumière le thème de l'exil, conséquence immédiate des conflits politiques et la question des identités qui traversent l'histoire et les continents depuis les origines. Un regard lucide sur le passé et le présent qui s'adresse aussi aux nouvelles générations, avec plusieurs spectacles jeunes publics programmés dans le IN. L'amour vainqueur d'Olivier Py, mais aussi Blanche-Neige par Michel Raskin, ou La République des abeilles de Maeterlinck par Céline Schaeffer. Ce soir, à 15 jours du lever de rideau, je vous invite à découvrir certains textes classiques et contemporains qui seront à l'affiche des théâtres d'Avignon. À mes côtés, j'ai le grand plaisir d'accueillir une grande comédienne, amie et collègue de la Comédie Française, Cécile Brune. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Guillaume.
Vous jouez actuellement dans Électro-Reste, d'après Euripide, sous la direction d'Ivo Vanov. Cet été, vous serez en tournée dans un lieu prestigieux, le Théâtre Antique d'Épidaure, les 26 et 27 juillet prochains. Mais avant de partir pour la Grèce, découvrons ensemble les belles surprises que nous réserve ce 73e Festival d'Avignon. Commençons par le spectacle qui ouvre les festivités dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Il s'agit de la nouvelle création de Pascal Rambert, une pièce intitulée « Architecture » qui revisite l'Europe du XXe siècle à travers le voyage symbolique d'une famille d'artistes et d'intellectuels. À l'initiative du père, un célèbre architecte à la personnalité tyrannique, le clan entreprend une longue croisière de capitale en capitale comme un adieu aux grands monuments qui vont être frappés par les guerres. Car ce voyage est aussi un voyage dans le temps, à la rencontre du destin tragique de l'Europe. Ils font bientôt escale en Grèce, berceau de la culture européenne. En conflit avec ses enfants depuis la mort de leur mère, Jacques interpelle les siens devant le monument qui se présente à eux, le Parthénon d'Athènes. Que reste-t-il de l'idéal antique de la beauté à la veille de la Première Guerre mondiale? Dans le passage suivant, découvrons l'émotion de Jacques face à ce chef-d'œuvre. Stan, le fils rebelle, répond avec violence à son père qu'il considère comme un ogre. La scène se déroule sous les yeux de Marie-Sophie, la jeune maîtresse de Jacques, qui a du mal à trouver sa place. La pièce se jouera du 4 au 13 juillet avec une prestigieuse distribution. Emmanuel Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdan, Arthur Nosiciel, Stanislas Nordet, Denis Podalydès, Pascal Rénéric, Laurent Poitrenou. Je veux parler de ça. Regardez si nous sommes des fuyards, si nous avançons dans un monde hystérique et malade avec nos meubles sur le dos. C'est pour ça, ce moment, que j'ai attendu toute ma vie. Ce qui est face à nous, cette masse, cette chose qui écrase cette hauteur, on ne peut rien contre cette hauteur. C'est fou d'avoir construit toute sa vie sans jamais être parvenu à toucher un seul instant, un peu, à cette beauté des lignes et des formes. J'ai consacré ma vie aux formes. Et puis on arrive là, en sueur, sans chapeau et sans eau, en plein soleil, à la fin de son existence. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et on voit ça, Doriquet, Ictinos, Callicrates, Phidias, Naos, Athéna, Parthénos. Courbez l'échine devant le Parthénon, courbez. Sinon, on ne dit pas les mots, si on ne refait pas les gestes, nous sommes perdus. Au-dessus de l'architrave, entre les triglyphes, les 92 métopes, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles disent? Stan, le fils. Elles disent cela, ce que nous avons sous nos yeux, la guerre. La terreur, la gigantomachie, le combat des titans entre nous tous. Nous allons nous entretuer. On voit des corps sublimes enfonçant des épées dans des monstres éclatants. Nous luttons contre le chaos. Le chaos arrive alors. Il faut refaire les gestes et les formes. Il faut saisir les épées. Nous sommes des animaux. Marie-Sophie a raison, aucune compassion. Alors nous allons frapper, frapper, comme sur les 92 métopes. La barbarie, je l'efface à mon visage. Je sors dans la ruelle, elle est là. Nous allons vers l'attractive catastrophe, le cannibalisme de notre continent. Nous allons nous entre-dévorer. Cela a commencé avec l'ogre à genoux. Et vous tous à genoux, il nous dévore. Nous sommes son air, son eau. Nous le faisons vivre. Il respire grâce à nous. Si je le suis dans ce voyage, c'est pour m'assurer qu'après le coup porté, il n'y aura plus de souffle. J'attends qu'il meure. Rien. Nous sommes au centre. Naos. Ici, sous les façades, nous sommes dans la trappe, la tension. Nous nous sommes donné rendez-vous avec le théâtron ambulant de nos vies. Le sang court partout. Pourtant, la beauté. Tournez vos regards, tournez-les. Nous arrivons à Delphes. Le soir est doux. Devant nous, la vallée, la mer d'Olivier. Arrête de pleurer, toi.
Je me suis caché dans le temple d'Apollon près d'un cyprès pour pleurer moi aussi. Les cyprès, quand même, je me sens bien près d'eux. Il y avait la vallée devant et les oliviers jusqu'à la mer. Je t'ai vu passer, tu tenais la main d'Audrey. Je vous ai vu pleurer, pourquoi pleurons-nous ainsi? Qu'est-ce que le monde nous a fait ou ne nous a pas fait pour nous faire pleurer ainsi? Je regardais le soleil en face et je pensais, Vienne me manque. Ce voyage me tue lentement. J'aime l'homme que j'aime, mais il est trop violent parfois. Que fait la vie aux êtres pour que leur souffrance se retourne ainsi contre les autres? En même temps, je regardais la vallée depuis le théâtre. Je me suis assis sur les marches. Et je vous voyais tous monter sous le soleil, sans chapeau et sans eau. Je me disais, comme quand on regarde une pièce sans connaître la fin, est-ce qu'il monte vers la mort ou est-ce qu'il la fuit? Et je ne savais pas trancher.
L'Iliade est la chose la plus sublime qui ait jamais été écrite. Il y a une ville dont on parle et où on ne pénètre jamais. Et des centaines et des centaines de jeunes héros se battent et meurent pour cette chose irréel et inaccessible. Quand un mauvais poète décrit une mort, il emploie des clichés automatiquement. Il parle des yeux qui se révulsent, de l'affreux rictus inhumain qui... Mais il n'y a rien de tout ça dans Homère. Chaque mort qu'il décrit est particulière. Je me souviens, il y a un moment où un jeune Troyen est poursuivi par Diomède et il reçoit le javelot dans la nuque. Et la pointe lui sort par la bouche comme une langue de métal. Et il se roule par terre en mordant l'acier froid.
Restons dans l'Antiquité en compagnie d'un grand auteur classique. Voici un extrait de l'Énéide de Virgile, l'équivalent latin de l'Iliade et l'Odyssée, auquel l'écrivain romain rend hommage 5 siècles après Homère. Ce récit épique célèbre le combat d'Énée, héros de la guerre de Troie, vaincu par ses ennemis les Grecs. Au lendemain de la défaite, il erre comme Ulysse sur la mer Méditerranée avant de trouver refuge sur les côtes italiennes où il fondera la ville de Rome. Adaptée par le dramaturge Kevin Case, la pièce sera présentée dans une version contemporaine avec des comédiens et danseurs sous la direction de Maël Poésie. Le spectacle s'intitule « Sous d'autres cieux » et se jouera du 6 au 14 juillet au Cloître des Carmes. Je vous confie le rôle d'aîné, Cécile Brune. Vous qui interprétez le cœur tragique chez Euripide, vous serez notre coryphée. Nous voici en plein siège de Troie par les Grecs.
Mes armes. Il me faut mes armes. Amis, voisins, courons au secours de la ville en flammes. Mourons et jetons-nous au cœur des combats. Il n'est qu'un espoir pour les vaincus. N'espérez aucun salut. Nous nous élançons vers le cœur de la ville. Les flèches sifflent tout autour de nous. Alors que nous courons, je me dis, nous courons vers notre mort. Qui pourrait raconter l'abomination de cette ultime nuit? Qui pourrait énumérer les morts? Qui pourrait verser des larmes à la mesure de l'horreur? L'antique cité, celle qui tant d'années régna souveraine, s'est peu à peu écroulée. Nous engageons la lutte. Certains Grecs courent vers leur navire, quelque part au loin. D'autres fuient vers le rivage plus sûr. Une partie d'entre eux, saisie d'une telle épouvante, se réfugie dans le ventre familier du cheval d'où ils sont sortis. À mesure que nous courons, des vents contraires attisent les flammes qui sautent de toit en toit. Une pluie de braises me brûle les yeux. Les Grecs envahissent le palais royal et les étincelles de feu dansent autour de nous. Je parviens à me frayer un chemin dans le fracas des combats. Je m'avance vers les coins les plus retirés du palais. Les Grecs sont partout. Les morts sont partout. Les hurlements et les combats emplissent l'espace. Les hurlements des morts se mêlent aux hurlements des femmes violées. De mes propres yeux, j'ai vu les deux Atrides, Agamemnon et Ménélas, l'épée à la main. 10 années de guerre, et je n'avais jamais vu leur visage, me suis-je dit. Je cherche la reine Hécube et ses filles, je cherche le roi de Troie, je cherche Priam, je sais où aller. Au cœur du palais, à ciel ouvert, sous la voûte du ciel, se trouve un gigantesque autel. Un laurier archaïque s'incline vers lui. Il embrasse les pénates sacrées de son ombre. Je les vois alors. Nous nous reconnaissons du bout des yeux, Hécube et ses filles, comme des colombes jetées au sol par une noire tempête. Le vieux Priam est là aussi, le vieux roi, mon oncle, le frère de mon père. Il a revêtu les armes de sa jeunesse, mais son corps de vieillard est faible et vacille sous le poids des armes. Je m'apprête à l'aider quand je vois surgir un homme, Pyrrhus, qui le tue d'un coup. Il tombe sous les yeux de sa femme et de ses filles et rend l'âme dans une mare de sang. Ainsi s'achève la destinée de Priam. J'ai le sang de mon oncle sur le visage, je titube, je ne vois plus rien, mon corps me brûle. Mourir et les venger, mourir, mourir, les venger, je me jette dans le brasier. Soudain, un halo de lumière dorée me sépare des combats. Les hurlements et les bruits des armes s'affaiblissent. Je la reconnais et je pleure. C'est ma mère, Aphrodite, brillante dans son immortelle beauté. Elle resplendit dans la nuit, elle scintille dans le carnage. La lumière tremble autour d'elle. Je ne l'avais jamais vue telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît aux autres immortels. Elle me saisit la main. Emmène-moi avec toi, je t'en supplie, emmène-moi loin de cette horreur. Je ne veux plus rien voir du monde, plus rien des hommes. Sauve-moi, emporte-moi où tu voudras, mais ne me laisse pas ici.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Vento di mar, trazemo creceu nessa tardinha di céu nublado, chuva di amor poder fazer florir coração queimó de paixão. Na patamar de vida singela, encontrar dona felicidade, nenhum olhar encontrar no multidão tão solitária.
Elle est partie, la grande dame, la diva aux pieds nus. L'exil est un champ fragile et ténu, petit caillou aride, fouetté par le vent. J'ai les paupières qui rident devant l'astre, le vent, mes mains calleuses d'arthrite, vives comme un enfant court sur des guitares tristes, qui nous parlent d'avant, et dans les mornes, d'où s'élèvent les mornas. On célèbre du bout des lèvres le nom de Césaria.
Gente, gente, te mal.
Le nom de Césaria.
Tita souffre. Na solidão. Gente, gente. T'as quase à mourir. Vento de mar, trazemos creceu nessa tardinha de céu nublado, chuva de amor poder fazer florir coração queimó de paixão. Na patamar de vida singela, encontrar dona felicidade, nenhum olhar encontrar no multidão tão solitária. Já tem gente, gente a te demais, de tá sofrer na solidão.
Viva la diva, longue vie à toi, à ton souffle magique, à cette joie qu'on te doit. Tu mêles de ton timbre au miel l'amour et les mots, et tu captes le sel de l'âme de l'homme en lambeaux. Elle est partie, la grande dame, la diva aux pieds nus. L'exil est un chant fragile et ténu.
Quittons l'Antiquité et revenons à notre époque. 4000 ans après la guerre de Troie, un autre conflit éclate au Proche-Orient. Place est un texte inspiré de l'histoire personnelle de son auteur, Tamara Al-Saadi, comédienne et metteur en scène franco-irakienne. La pièce explore l'espace mental de Yasmine, une jeune femme née sous la dictature et venue en France très jeune, au début des années 90, au moment de la première guerre du Golfe. Également chercheur en sciences sociales, la dramaturge s'intéresse à la notion d'identité en lien avec l'immigration. Le titre évoque la question de la place qu'on occupe dans un pays d'accueil, mais aussi celle que l'on laisse en soi pour la dualité des cultures. Récompensée par le prix des lycéens et le prix du jury du festival Impatience, Place se jouera entre le 19 et le 21 juillet au gymnase du lycée Saint-Joseph à Avignon. Remontons aux origines de l'histoire familiale, bien avant la naissance de Yasmine. Dans le monologue qui suit, Ouda, sa sœur aînée, se remémore un épisode noir, l'arrestation du père par les forces de Saddam Hussein.
Je dormais quand un homme est subitement entré dans ma chambre. Il avait un revolver dans la main. Des hommes criaient et des objets tombaient sur le sol. Maman était dans le salon. Elle tenait Nabil par la main. Il pleurait. Mon père était retenu à l'écart par un homme qui dirigeait son revolver contre sa tempe. La peau de mon père était blanche. Son pantalon de pyjama était trempé et à ses pieds, il y avait une flaque d'urine. J'ai couru vers maman qui m'a prise contre elle. Les hommes semblaient chercher quelque chose. Je sentais la main de ma mère sur mon épaule. Puis ils nous ont dit de sortir. Ils nous ont fait entrer dans une voiture avec deux hommes armés. Mon père a été conduit dans une autre voiture. Et nous avons roulé longtemps. Je pensais à Yasmine qui était dans le ventre de ma mère. Nous sommes arrivés devant un grand bâtiment. Mon père est sorti de la voiture, entouré de quatre hommes, dont celui qui était entré dans ma chambre. Nous sommes tous entrés dans le bâtiment. Ils ont fait pénétrer mon père dans une pièce, et nous dans une autre, voisine de la sienne. Mon père ne s'est jamais retourné vers nous. Il ne nous regardait plus. Et ma mère ne l'a jamais quitté des yeux. Les mains de ma mère s'accrochaient si fort à nous que ses ongles me faisaient mal, mais je ne bougeais pas, car j'avais la sensation que si je bougeais, elle allait tomber par terre. Je crois que Nabil ressentait la même chose. La pièce était très petite. Il y avait un tapis de prière sur le sol et il n'y avait pas de fenêtre. La peinture jaunie des murs était toute craquelée. Nous nous sommes assis, appuyés contre ma mère, chacun d'un côté, et nous n'osions pas parler de peur que le son de nos voix provoque un grand malheur. Sur le mur, au niveau de la tête de Nabil, il y avait des traces de doigts. Les heures se sont écoulées dans les entrailles de mon père et ses hurlements se sont inscrits en nous. Au matin, nous avons été libérés. Je n'ai revu mon père que 3 ans plus tard. Ma mère avait réussi à le sortir de prison. Je me souviens de mon enfance comme d'un cri.
Ce qui nous sauve, c'est appartenir à l'histoire, nous dit le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py. C'est aussi la conviction d'Alexandra Badea, écrivaine d'origine roumaine pour qui le théâtre a ici un rôle essentiel à jouer. Avec Quai de Seine, l'auteur s'intéresse au passé colonial français et à ses zones d'ombre. Elle entrelace la petite et la grande histoire et observe la manière dont la vie politique déteint sur l'intime. Empêchée de vivre par un lourd secret familial, une jeune femme enquête sur ses origines. Elle découvre alors l'existence d'un amour contrarié entre Irène, sa grand-mère pied-noir, et Younes, un Algérien. Remontons dans le temps. Face à la vive tension qui règne au début des années 60, Younes et Irène quittent Alger pour Paris. Mais la violence du conflit les rattrape un certain 17 octobre 1961.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le ministre. J'apprends à l'instant que le FLN se prépare à manifester ce soir dans les rues de Paris.
Cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Il est hors de question que le FLN défile dans Paris. M'avez bien entendu, faites le nécessaire. Vous avez carte blanche.
Alors que 80 000 manifestants défilent pacifiquement en faveur de l'indépendance, la répression policière est sanglante. Enceinte du père de Nora, Irène perd la trace de son amoureux. 2 jours plus tard, elle le retrouve enfin. Mais la violence a laissé son empreinte sur leur histoire. L'image des corps jetés depuis les quais de Seine hantera son esprit à jamais. Deuxième volet d'une trilogie intitulée « Point de non-retour », la pièce se jouera au théâtre Benoît XII entre le 5 et le 12 juillet. Les textes de l'auteur sont disponibles aux éditions de l'Arche.
Tu étais où? Ils t'ont emmené à Vincennes? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait?
Arrête. Calme-toi. Respire. Il n'y a rien.
Toute la nuit, je t'ai cherché.
Je suis désolé, mon amour, je n'ai pas pu te prévenir. Je suis allé chez Rabat. J'ai dû rester avec lui.
Rabat?
Mon collègue de l'usine. Ils l'ont raflé. Ils l'ont enfermé deux nuits dans une cave. On ne reconnaît plus son visage. Sa peau est complètement brûlée. Il n'était pas venu au travail depuis trois jours, alors je suis allé à l'hôtel où il loge. Il était au lit. Il ne peut plus marcher. Ils lui ont enfoncé une bouteille. Des jeunes comme nous, venus de la même ville. Il dit qu'il a vu la honte et la haine dans leurs regards quand ils frappaient.
Mais pourquoi ils l'ont pris?
Un rabat collecte les fonds à l'usine, ça doit être ça.
Toi aussi tu cotises?
Tout le monde cotise.
Et cet argent va dans les armes?
Tu parles comme eux maintenant.
Ma famille est là, Younes. Je ne peux pas.
Ma famille aussi. Il y a des morts des deux côtés. On connaît tous les deux l'origine de cette violence.
Je serai toujours la fille de tes ennemis.
Irène.
La fille des colons. La fille de la conquête de l'Algérie. Je peux tout faire, c'est marqué dans mon corps. Mes paroles sont filtrées. N'importe ce que je dirai, j'aurai tort. Et toi, tu auras toujours raison. Ma vérité sera toujours annulée par ta vérité. On sera toujours séparés par l'histoire.
Qu'est-ce qui te prend, Irène?
Je voudrais oublier ces fausses racines qu'on m'a collées. Je n'ai pas choisi de naître là-bas. Je voudrais pouvoir parler sans que ça soit tout le temps vu comme la parole de l'oppresseur.
J'ai pas dit ça.
Non, tu ne l'as pas dit. C'est moi qui me le dis tout le temps. Tout le temps, je me demande si j'ai le droit de penser ou de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit de dire que l'Algérie me manque? Que c'est le seul pays que je connais? J'ai le droit? Je t'ai cherché la nuit entière, partout, tu sais. Je t'ai perdu dans cette cour. Il y avait tellement de monde, tellement de corps. Je t'ai cherché, mais je ne pouvais pas avancer. Je te voyais de temps en temps, loin, mais je te perdais à nouveau, chaque fois. Il y a eu ensuite les insultes. Ils ne supportaient pas qu'une Française soit là, avec vous, de l'autre côté. J'ai l'habitude d'affronter ces regards. Dans les yeux des gens, j'ai toujours été la fille du colon qui s'est fait coloniser par son ancien valet. J'ai eu tellement peur. Ce flic, son regard, je l'ai regardé aussi avec le même mépris. Il n'a pas pu le supporter. Il m'a déchiré la blouse d'un geste violent, il a craché, et ensuite il m'a poussé vers la sortie. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas te laisser là, mais j'ai entendu ta voix qui me demandait de partir. J'avais envie de me retourner pour te regarder avant de sortir, mais je n'ai pas osé. Je ne voulais pas que tu me voies dans cet état. Je suis resté des heures au bord de la Seine à t'attendre. J'ai vu les bus sortir. Il faisait nuit et il pleuvait. J'essayais de trouver ton visage dans cette masse de corps qu'on transportait, mais je ne voyais rien. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté figé là, sur les rives, à t'attendre. Jusqu'à l'aube. Je les ai vus sortir. Je les ai vus jeter les corps dans la Seine. J'ai vu les corps flotter. J'ai vu les corps aspirés par l'eau sale. Je les ai vus et je les vois encore.
Qu'est-ce que vous attendez du théâtre, Alexandra Badea?
Une rigueur de la pensée, le courage d'aller aux endroits où la parole elle est interdite, d'extraire cette parole et de la porter plus loin. Pour moi, le théâtre, c'est un endroit où je ne peux pas ne pas parler de la politique. Plus particulièrement, je pense que je suis à un endroit où je parle des zones où le politique rend impossible la vie intime. C'est ça qui m'intéresse. C'est ces endroits où la vie devient invivable, impossible. Après, ce n'est pas un théâtre qui dénonce. Ce n'est pas mon travail de dénoncer des choses. C'est plutôt de questionner ces endroits.
Partons pour un autre continent, nous voici en Chine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un texte célèbre évoque les ravages de l'histoire du XXe siècle sur la société chinoise, La Maison de Thé, du dramaturge Lao She. Né à Pékin en 1899, l'écrivain devient l'un des artistes officiels de la révolution culturelle, mais le régime maoïste se durcit, et en 1966, l'auteur est persécuté. Sa mort, le 25 août, par noyade, reste un mystère. Suicide ou assassinat. Dans La Maison de Thé, publiée en 1957, trois générations se succèdent, survivant tant bien que mal aux changements politiques et aux guerres. Nous sommes en 1946, après la défaite du Japon. Pékin est occupé par les militaires américains. Deux truands, Liu le Grêlé le Jeune et Tangle devint le jeune. On l'idée de s'adapter au temps nouveau et de transformer la vénérable maison de thé en maison close. Le dialogue suivant se déroule en présence de M. Wang, le vieux tenancier, et d'une jeune prostituée, Ding Bao, qui vient lui offrir ses services. Découvrons la langue orale, mélange d'autodérision et de provocation qui a fait le succès de Lao She. La pièce sera présentée à l'Opéra Confluence, du 9 au 20 juillet, dans une mise en scène de Meng Jinghui. Grande figure de l'avant-garde chinoise, l'artiste signera une adaptation électro-rock de ce texte. Je ferai donc Liu le grêlé le jeune, et vous, Cécile, Tangle devint le jeune. Aïe, putain de sa mère, si c'est pas Tangle devint le jeune qui s'amène.
Aïe, putain de sa mère, si c'est pas Liu le grêlé le jeune que voilà. Eh viens, viens par ici que je te contemple. Eh ben, mon mignon, un costard à l'occidental, tu te refuses rien. Et vu de dos, tu as plus l'air d'un blanc qu'un vrai blanc. Monsieur Wang, la nuit, je consulte les étoiles. La polaire est particulièrement brillante ces jours-ci. Ça veut dire qu'un nouveau fils du ciel va bientôt se manifester. Alors vous verrez comment le jeune Liu et moi-même, et aussi cette demoiselle...
La petite Ding Bao ici présente, célèbre dans tout Pékin...
Et aussi cette demoiselle Ding Bao, nous, tous aussi beaux et talentueux les uns que les autres, doués des vertus civiles et guerrières... Nés à l'époque la plus propice, nous allons vivre les temps à venir comme des poissons dans l'eau. Monsieur Wang, tournez le visage, bien droit, comme cela. Laissez-moi regarder. Bien, bien, vous avez le front qui brille. Vous avez encore un peu de chance en réserve. Allez, donnez-moi une tasse de thé. Et ne m'appelez plus Tangle devint le jeune. Je suis désormais Tang le maître céleste.
Et qui c'est qui t'a donné ce titre, petit Tang? On ira boire un café dans un moment, Ding Bao nous tiendra compagnie. Mais en attendant, écoute-moi, j'ai quelque chose de sérieux à te dire, tu veux bien?
Bon, petit Liu, je t'écoute.
Je viens d'en parler avec Ding Bao, j'ai planifié quelque chose de grandiose. Je vais créer un trust. C'est un mot américain, tu peux pas comprendre. En pékinois, ça se dit baoyuan, ce qui signifie s'occuper de tout.
Bien sûr que je comprends. Ça veut dire que tu veux maquer toutes les filles de la ville.
C'est ça. T'as décidément pas la cervelle embourbée. Ding Bao, écoute, tu es concerné de très près. Et même Monsieur Wang est concerné. Je vais rassembler les danseuses, les prostituées recensées et celles sans licence, les filles à soldats et les hôtesses de bar, en une seule organisation qui va faire un trust géant. Le directeur Chen sera le président du trust, je serai le directeur général.
Et moi là-dedans ?
Toi, si tu peux nous trouver un nom qui sonne bien, tu seras nommé conseiller. On te versera chaque mois quelques bons billets américains bien craquants.
Continue, ça m'intéresse.
Pour ce qui est du business, on aura quatre grandes divisions. Vente et achat, transport, formation, service à la clientèle. Acheter une fille ou la revendre, en transporter une de Shanghai à Tianjin, former une prostituée ou une hôtesse, fournir l'armée américaine ou les fonctionnaires de Touran. Tout sera pris en charge de façon unifiée pour assurer le bonheur de tous. Qu'est-ce que t'en dis?
Parfait, génial. Du point de vue de la méthode, c'est conforme à tous les principes d'unification. Et du point de vue de la pratique, ça va d'abord permettre de répondre aux besoins des soldats américains. Et ça, c'est bon pour le pays.
Bien, à toi de réfléchir à un nom qui convient maintenant. Trouve-nous quelque chose d'élégant dans le genre des poèmes sourcils en feuilles de saule, yeux en noyaux d'abricot, bouche semblable à une cerise.
Mais trust, c'est pas très élégant. En transcription chinoise, ça fait Tuolazi qui signifie tire, pousse, déchire, tire le delà, pousse bien fort. Si tes passages te déchirent en deux, ouais, on dirait une histoire de kidnapping et d'assassinat. Non, c'est décidément pas élégant.
T'as raison, c'est pas élégant du tout. Mais c'est de l'américain, c'est à la mode.
Il y aurait bien quelque chose comme compagnie unifiée. Ça sonne mieux. Et surtout plus respectable.
C'est comme tu le sens. Compagnie unifiée de quoi, alors?
Compagnie du vice unifiée? Ça vous irait bien?
Non, ma petite Ding Bao, sois un peu sérieuse et arrête de dire des conneries. Hein? Si tu te débrouilles bien, tu peux même espérer devenir formatrice en chef pour les hôtesses d'accueil.
Que penses-tu donc de ça? Compagnie unifiée de la double fraîcheur. C'est quoi une fille? Une fleur fraîche. Et pour avoir une fille, il faut claquer de la monnaie fraîche. Fraîche et fraîche. Donc, double fraîcheur. Il y a aussi une citation plus classique. Bleues sont les montagnes, vertes sont les eaux, fraîche est la chair.
Pas mal, non?
Ouais, petit Tang, je te dis merci. Merci. Je vais tout de suite en parler au directeur Chen et dès qu'il aura approuvé ce choix, tu seras nommé conseiller.
Vous aviez pas dit qu'on irait boire un café? Bon, allez-y tous les deux, moi j'attends des gens. On doit me livrer ma robe d'immortel.
Allons-y, ma petite.
À demain, monsieur Wang. Au revoir, maître Céleste.
Évoquant à présent une forme d'autocensure qui naît de l'entrelacement des identités et des cultures. Dans Multiple-S, le chorégraphe burkinabé Salia Sanou explore, je cite, sa voix intérieure à l'écoute de questions longtemps évitées, fin de citation, qui tournent autour de l'exil, de l'altérité et d'identité plurielle. Sur scène, il réunit un musicien, l'artiste Babix, une femme de lettres franco-canadienne Nancy Houston et une danseuse d'origine sénégalaise Germaine Akoni et invente entre eux un dialogue. Riche d'une identité multiple, Nancy Houston interroge à son tour les liaisons complexes entre ces deux ports d'attache, la France et le Canada. Découvrons un extrait de « Nord perdu » paru en 1998 aux éditions Actes Sud et partie intégrante du spectacle. Le spectacle se jouera du 7 au 14 juillet dans la cour minérale de l'Université d'Avignon.
Les dictionnaires nous induisent en confusion, nous jettent dans l'effrayant magma de l'entre-deux-langues, là où les mots ne veulent pas dire, là où ils refusent de dire, là où ils commencent à dire une chose et finissent par en dire une tout autre. Ce que l'on avait l'intention de dire, c'était le Nord. Ce que j'aurais dû dire, en principe, ce que j'étais censé dire, si j'avais quelque chose à dire. Le Nord, j'en viens. Le Nord, le Grand Nord a laissé sur moi sa marque indélébile. En fait, nous sommes tous multiples. Ne serait-ce que pour cette raison-là que nous avons été enfants, adolescents, et ne le sommes plus, et le sommes encore. Dans votre pays d'adoption, vous taisez ce que vous fûtes. L'enfance, les comptines, la nourriture, les écoles, les amis d'enfance, personne ne connaît, ce n'est pas la peine. Vous n'allez pas les assommer en leur faisant un cours sur l'ouest du Canada, les champs de blé, les chanteurs country, les puits de pétrole, les trains de marchandises, les leçons de piano, les cousins, les pique-niques, les lacs de montagne, votre père, votre mère. Dans votre pays d'origine, vous taisez ce que vous faites. Eh oui. Ce que vous pensez, dites, lisez, voyez dans la vie de tous les jours depuis des décennies n'a aucun intérêt pour les gens de chez vous. Parce qu'ils ne le connaissent pas, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas envie de leur expliquer en long et en large Chirac, Mitterrand, Duras, la place des Vosges au petit matin, votre boulangère, votre éditeur, France Culture, vos voisins du Berry, vos amis. Insensiblement, votre âme aussi, et pas seulement votre corps, s'est éloigné de son point de départ. Eh oui, c'est comme ça. Personne n'est impressionné par ce que vous faites. Depuis toutes ces années, persuadé d'épater une galerie lointaine, vous vous livrez à vos acrobaties devant une salle déserte. Ça y est, brusquement, irréversiblement, votre témoin intérieur s'évanouit. Vous êtes seul. Dès que j'entends une voix à accent, je tends l'oreille. J'étudie l'individu à la dérobée, en essayant de me représenter l'autre versant de son existence, le versant lointain, qu'il s'agisse d'un Haïtien à Montréal, d'une Allemande à Paris ou d'un Chinois à Chicago, c'est tout un roman quand on y pense. « Ah, me dis-je, cette personne est cassée en deux. Elle a donc une histoire. » Et si je disposais d'une troisième langue, le chinois par exemple, cela impliquerait-il un troisième imaginaire, un troisième style, une troisième façon de rêver? Qui sommes-nous alors? Si nous n'avons pas les mêmes pensées, fantasmes, attitudes existentielles, voire opinions, dans une langue et dans une autre. Le problème, voyez-vous, c'est que les langues ne sont pas seulement des langues. Ce sont aussi des world views. C'est-à-dire des façons de voir et de comprendre le monde. Il y a de l'intraduisible là-dedans. Et si vous avez plus d'une worldview, vous n'en avez, d'une certaine façon, aucune. Incapable d'attraper dans les raies du langage tous les mots qui nous échappent, poisson vif argent qui scintille, frétille et glisse entre les mailles des mots, nous recouvrons ce flot extravagant qu'est la vie par des banalités. Oui, j'ai passé un bon été. Ça va, ça va. En fin de compte, nous ne sommes entièrement libres que dans nos désirs, et non dans nos réalités. Or, les uns sont aussi importants que les autres. Oublier les limitations du réel est aussi grave, aussi répréhensible, que d'oublier le vertige de l'imaginaire.
Desde que o vento passou, rasgou meu pranto, teu casaco. Desde que o vento deixou o meu abrigo nos teus braços. E o que o vento levou, ninguém mais se acostumou a viver sem tudo que o vento apagou. Mas ter fé em vão, vento queimou meu coração. E o que o vento levou, ninguém mais se acostumou a viver sem tudo que o vento apagou. Levou-a lembrança, secou. Desde que o vento molhou o meu cansaço, o meu trabalho. Desde que o vento quebrou o teu retrato no meu quarto. E o que o vento levou, ninguém mais se acostumou a viver sem tudo.
Cultive-t-on?
Oh, mais je ne viens pas d'un jardin.
Croyez-vous que ce soit une fleur sauvage?
Oh non, je ne suis pas une fleur sauvage.
Alors de quelle variété, de quelle branche, de quel genre êtes-vous, ma chère?
Disons, si vous voulez, que j'appartiens au genre humain, variété Alice.
Et puisqu'Avignon est aussi le lieu où l'on célèbre l'imaginaire, laissons l'histoire avec un grand H pour l'univers fantasque de Lewis Carroll, avec Lewis versus Alice, la metteur en scène Masha Makayev, que j'embrasse, éclaire l'œuvre maîtresse de Lewis Carroll à la lumière de la vie de son auteur, Charles Ludwig Dodgson, né en 1832. Esprit fantasque et hors normes, Charles grandit à une époque victorienne on ne peut plus rigide et partage sa vie entre les mathématiques, l'écriture et la photographie. Entrecoupé de chansons pop gothiques et d'apparitions filmées, ce spectacle ébouriffant se jouera du 14 au 22 juillet à la Fabrica. Mais pour comprendre qui était l'auteur d'Alice, faisons connaissance avec son père, prénommé Charles, comme son fils, et doué d'une imagination tout aussi féconde. Voici la savoureuse lettre qu'il adresse à son fils de 8 ans. « Mon bien cher Charles, Fiez-vous à moi pour ne pas oublier votre commission. Dès que j'arriverai à Leeds, je hurlerai au milieu de la rue « Quincaillez, quincaillez !» 600 hommes sortiront de leur boutique en courant, afflueront de toutes parts, sonneront les cloches, appelleront la police, sèmeront la panique. J'exigerai une lime, un tournevis et un anneau, et si on ne me les apporte pas aussitôt, en 40 secondes, je massacrerai tous les habitants de Leeds, sauf un petit chat, et seulement parce que je ne crois pas avoir le temps de le tuer. Quel braillement alors, que de cheveux arrachés, des porcs et des bébés, des chameaux et des papillons rouleront ensemble dans le ruisseau, de vieilles femmes grimperont dans les cheminées, suivies par des vaches, des canards se cacheront dans des tasses à café, et de grosses oies essaieront de s'encastrer dans des plumiers. Enfin, on trouvera le maire de Leeds, dans une assiette à soupe, recouvert de crème à la vanille et garni d'amandes, déguisé en gâteau pour échapper aux ravages terribles de la ville. Puis viendra un homme caché dans une théière, géniard et pleurnichard. « Oh, j'ai perdu mon âne, je l'avais mis dans ma narine, mais il est sorti par le bec de la théière et il est tombé dans le dé à coudre d'une vieille femme qui va l'écraser quand elle mettra le dé sur son doigt. Enfin, ils apporteront ce que j'ai commandé et j'épargnerai la ville et j'enverrai dans 50 carrioles et sous la protection de 10 000 soldats une lime, un tournevis et un anneau comme cadeau pour Charles Ludwig Dodgson de son papa qu'il aime. » Mais il est des pères moins tendres comme on le découvre dans L'amour vainqueur, une opérette pour la jeunesse inspirée des frères Grimm et signée Olivier Py. Dans cette fable remise au goût du jour, les femmes s'opposent au destin qu'on leur assigne et les rois déclarent la guerre pour écouler leurs armes. Bientôt cloîtrée dans une tour aveugle pour avoir contrarié les projets de son père, la princesse finit par retrouver sa liberté et son jeune prince. Car l'amour et la fantaisie, vous l'avez deviné, l'emportent ici sur le cynisme. L'amour vainqueur sera joué du 5 au 13 juillet au gymnase du lycée Mistral. Le texte est disponible aux éditions Actes Sud. Découvrons un échange entre le monarque autoritaire et sa fille, puis retrouvons notre fière héroïne dans sa tour isolée où l'imaginaire lui redonne espoir. Je serai le roi et vous serez évidemment Cécile la princesse. Mon enfant, l'heure est grave et je dois te parler. La guerre est déclarée et nous devons nous battre. Il n'y a dans l'armée que des garçons coiffeurs, un ou deux jardiniers et des joueurs de flûte. Et toi, pour nous aider dans cet effort martial, tu devras épouser le vieux roi d'Angleterre. Son invincible armée nous est indispensable.
Mon cœur est déjà pris, je l'ai déjà donné.
Tu veux que nous soyons vaincus par l'ennemi ? Emprisonnés, brûlés, réduits en esclavage ? Il n'y a plus que toi qui pourrais nous sauver. Le roi est amoureux. Il a vu ton portrait et je lui ai promis que tu aurais son cœur.
Non, je ne peux trahir l'amour que j'ai fait naître. Et pourtant, il faudrait sauver notre pays.
La guerre est déclarée par le roi de Bretagne. La guerre est bienvenue, j'ai à vendre des armes, du fer et des canons, du feu et des armures. Elle est très lucrative et remplira nos caisses. Et tu vas te marier au vieux roi d'Angleterre.
C'est un autre que j'aime.
Il faudra l'oublier.
Jamais. Plutôt mourir, plutôt être enterré.
Mourir ? Oh, c'est trop beau, je serai plus cruel. Tu seras enfermé dans une haute tour, sans lumière et sans porte. Et ce, pour 7 années. Tu auras juste assez à boire et à manger. Nous verrons dans 7 ans si tu as moins d'orgueil. La princesse, plus tard, seule dans sa tour.
Il arrive souvent qu'au fond de la prison, on voit comme un éclat de lumière argentée. Il arrive parfois qu'au fond de la prison, on entende chanter un oiseau tapageur. Égaré dans la nuit et l'oubli des saisons, il promet un printemps, il promet un ailleurs. Il arrive à la nuit de ressembler au jour. Des étoiles trouées dans un papier dentelle, on croirait voir fleurir le bonheur alentour et s'effondrer les murs de cette citadelle. Puisque dans ma prison il n'y a pas d'azur, je peux peindre de bleu le plafond et les murs, et ce bleu me suffit pour espérer encore un ciel surangélique où l'amour n'est pas mort.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Valérie Lavalard a été préparée par Estelle Gapp, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un grand merci à vous, Cécile Brune, de m'avoir accompagnée de votre belle voix grave et de votre belle présence. Merci à Arnaud Pain et Aurélie Mongour de l'agence Opus 64, ainsi qu'à Christine Gassin et Nathalie Jiquel des éditions Actes Sud. Bon Festival d'Avignon. Bel été sur France Inter, je vous retrouverai en septembre pour fêter les 10 ans de Ça peut pas faire de mal.